Tu connais William Faulkner?
Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui, enlève ton jersey.
Les Hommes de l'Ombre, l'émission historique qui met au jour les personnages oubliés de l'histoire sur Radio Campus Paris.
Et c'est d'Alan Turing que nous parlerons aujourd'hui. L'homme qui a décrypté le fameux code allemand Enigma a vu ses travaux de la Seconde Guerre mondiale rester secrets pendant plus d'un demi-siècle. On le redécouvre aujourd'hui, mais sa notoriété tardive a conduit à une déformation de sa personnalité et de son œuvre. Celui qu'on considère souvent comme le plus grand mathématicien du XXe siècle peut aussi être vu a posteriori comme le fondateur de l'informatique et des systèmes modernes de calcul. Cet amoureux du marathon devient également une figure culturelle dont la pensée est souvent reprise dans les débats actuels sur le transhumanisme. Après avoir subi l'intolérance et l'homophobie de ses compatriotes, après avoir connu le silence du monde pendant un demi-siècle, le personnage Alan Turing apparaît aujourd'hui comme une figure incontournable de notre monde moderne.
Et donc, vous avez imaginé une machine capable de résoudre tous les problèmes. Elle ne ferait pas une chose, elle ferait tout, elle serait pas juste programmable, elle serait reprogrammable. C'est ça l'idée avec Christopher.
Eh bien, le cerveau humain est capable de faire des calculs complexes très vite, même Hugh sait faire ça, mais je veux que Christopher aille plus loin. Et qu'il fasse un calcul et qu'ensuite, il détermine l'étape suivante, comme le fait une personne. Imaginez... un cerveau électrique, un calculateur numérique.
Bonjour Gaspard.
Bonjour Simon.
Alors c'est Alan Turing qui commence à être connu. En quoi est-ce un homme de l'ombre?
C'est bien sûr la première question à se poser. D'ailleurs, je pense que le nom d'Alan Turing doit dire quelque chose à nos auditeurs, notamment grâce au film Imitation Game dont on vient d'entendre un extrait. Mais qui ne raconte en fait qu'une histoire inspirée de sa vie. Et oui, parce que malgré son Oscar du meilleur scénario adapté, le film n'est pas conforme à la véritable histoire d'Alan Turing.
En effet, c'est un grand défaut du film qui va parfois jusqu'à laisser croire que Turing était amoureux d'une femme, Joanne Clark.
Ce n'est pas tout. Imitation Game ne se centre que sur une partie de la vie de Turing, celle où il a réussi à casser le code d'Enigma grâce à sa machine qu'il avait baptisée Christopher. Christopher, c'est justement le nom de l'homme dont Turing était tombé amoureux dans sa jeunesse.
Toutefois, la personnalité de Turing est complexe. Et pour la comprendre, on ne peut évidemment ni la réduire à son orientation sexuelle, ni négliger cette dernière. Turing a toujours été un solitaire, un introverti. Et ça explique peut-être en partie le silence qui a été fait sur sa personne pendant des dizaines d'années.
Tout à fait. En 1952, il a été condamné pour indécence, ce qui renvoyait dans les années 50 à l'homosexualité. Il aurait pu invoquer sa condition de héros de guerre, mais le problème, c'est que ses travaux de recherche étaient encore classés top secret. Donc son côté introverti et réservé a été accentué par son activité couverte par le secret militaire.
Exactement. Dans un sens, la pression de la société, de l'institution militaire, a renforcé le poids de son silence. Et il y a peut-être une dernière raison pour laquelle Turing est et restera, malgré sa notoriété de plus en plus grande, un homme de l'ombre. Turing était en avance sur son temps, et peut-être encore sur le nôtre. En 1936, il avait déjà envisagé le remplacement des humains par les machines, à une époque où l'expression « intelligence artificielle » n'existait même pas encore.
La possible existence future d'une machine pensante, c'est en ça que consiste son fameux « jeu de l'imitation », « imitation game » en anglais. Cette pensée moderne est aujourd'hui reprise dans tous les débats sur le transhumanisme et les dangers des nouvelles technologies. La réflexion de Turing est fondatrice, et en même temps on ne pourra jamais complètement savoir jusqu'à quel point ses prévisions étaient justes.
C'est un homme de l'ombre parce que sa pensée quasi-futuriste fait peur, et qu'on n'ose pas l'explorer jusqu'au bout.
Qu'est-ce que tu lis là? Un livre sur la cryptographie. Les messages secrets, c'est ça?
Non, pas secrets. C'est toute la beauté du procédé. Des messages que tout le monde voit mais que personne ne peut comprendre, à moins d'avoir la clé.
En quoi c'est différent du langage?
Du langage?
La plupart du temps, quand les gens se parlent, ils ne disent pas ce qu'ils veulent dire, ils disent tout à fait autre chose. Et on est supposé savoir ce qu'ils veulent vraiment dire. Sauf que moi, non. Alors, en quoi c'est différent?
Alan, mon petit doigt me dit que tu vas être très doué pour ça.
Alan Mathison Turing naît à Londres le 23 juin 1912 dans le quartier de Maida Valley, le même quartier dans lequel est né Terence Fisher, le grand réalisateur de films fantastiques.
Le père de Turing, Julius Mathison Turing, est fonctionnaire d'administration coloniale affecté en Inde. Si bien que lui et sa femme, la mère d'Alan, est-elle Sarah Turing, vont vivre en Inde, sans le petit Alan qui a à peine un an. Il le confie à des amis jusqu'à leur retour, quand Alan a 14 ans.
Alan a été profondément marqué par l'absence de ses parents pendant près de 13 ans. Bien sûr, il les voyait de temps en temps quand ceux-ci revenaient en Angleterre ponctuellement. Mais on peut sans doute expliquer une partie de son caractère réservé et solitaire par cette absence cruciale pendant toute son enfance.
L'enfant Alan est solitaire, mais il se montre déjà brillant. En témoigne le fait qu'il a appris à lire par lui-même en moins d'un mois.
Et pourtant, il fut par la suite très mauvais dans les disciplines littéraires.
Oui. S'il a très vite et très facilement appris à lire, il n'en a pas fait un usage retentissant dans ses cours d'histoire ou de littérature anglaise. Ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est que Turing, déjà très jeune, présente toutes les caractéristiques du surdoué. Mais il semble que plus ce caractère de génie se développe, plus son isolement dans la sphère sociale s'accroît, n'est-ce pas Gaspard ?
En effet, alors même que tous ses professeurs s'étonnent de son intelligence quand il s'agit des matières scientifiques, Alan devient le souffre-douleur, la tête de turc de ses camarades.
Le comble est atteint lors du jour de la rentrée à la Sherborne School, une école privée au sud de l'Angleterre. Ce premier jour coïncide avec une grève générale dans tout le pays pour demander une hausse des salaires et tous les transports sont bloqués. Alan vit à l'époque à plus de 90 km de son école et il décide, ni une ni deux, de partir un jour avant la rentrée et de faire le trajet en vélo, s'arrêtant dans un hôtel la nuit.
Quand les élèves de l'établissement de Turing l'apprennent, Alan est directement fiché comme un intello au sens péjoratif.
Je suis désolé, je ne les laisserai plus faire.
Ils sont encore pires qu'avant.
Ils s'en prennent à moi parce que je suis plus intelligent qu'eux.
Non, ils s'en prennent à toi parce que tu es différent.
Merdique, je suis un drôle de loustique.
Oui, c'est vrai. Mais, tu sais, Alan, parfois ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées.
Bref, il n'est pas très apprécié de ses camarades.
Non, et de ses professeurs non plus. Le goût très marqué de Turing pour les sciences et surtout les mathématiques lui vaut les moqueries des enseignants qui sont très attachés à l'éducation classique, littérature, histoire, philosophie, art, etc. Ça ne va pas empêcher Turing de se consacrer à sa passion, les problèmes scientifiques. Il va notamment découvrir les travaux d'Albert Einstein alors qu'il avait à peine 16 ans.
Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'il part d'un texte de vulgarisation et qu'il va en déduire énormément de choses.
Tout à fait, Simon. En fait, il va lire une explication assez simplifiée de la pensée et des travaux d'Einstein, mais dans laquelle les conséquences scientifiques des découvertes du génie allemand ne sont pas explicitées. Et Turing va comprendre ce à quoi mènent les travaux d'Einstein par la seule force de son esprit et de ses raisonnements. Par exemple, il comprend qu'avec Einstein, les lois découvertes par Galilée et Newton peuvent être remises en cause, notamment celles sur les mouvements des corps célestes.
Mais surtout, à l'âge de 15 ans, il fait une rencontre qui va changer sa vie à jamais.
En 1927, il se lie d'amitié avec un de ses camarades d'école, Christopher Morcom. Les deux ont les mêmes goûts, les mathématiques, la science quantique et l'astronomie.
Pendant près de 3 ans, ils sont tout le temps ensemble, au point qu'Alan commence à tomber amoureux de son camarade. Tous deux partagent les mêmes idées, les mêmes passions, ils sont inséparables. Christopher a déjà des ambitions de carrière dans les mathématiques et il entraîne Turing sur cette voie.
Oui, Christopher aura une grande influence sur le destin de Turing. En février 1930, il meurt brutalement de la tuberculose bovine après avoir bu du lait de vache infecté. Alan se rend compte alors que Christopher était l'amour de sa vie. Turing ne pourra jamais complètement se remettre de la disparition de quelqu'un qu'il admirait, qu'il aimait tant.
Non seulement il a souffert de la mort de son premier amour, mais son homosexualité le fera souffrir à un autre moment crucial de sa vie. Alors qu'il pouvait l'afficher librement au grand jour pendant des années, personne ne s'en souciait, le tournant idéologique de la guerre froide mène Turing à sa condamnation judiciaire et à sa fin tragique.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten. But we paraphrase a book written 3,500 years ago.
Bye-bye,
I don't know.
Bye-bye. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to.
gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for 'em. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Don't press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up.
I can't change.
C'est à ce moment de sa vie qu'Alan Turing décide de reprendre le flambeau intellectuel de son ami Christopher et de consacrer son existence à la recherche scientifique et mathématique.
Mais tout n'est pas si simple. Dans la poursuite de ses études, Turing est handicapé par son manque d'intérêt et de travail pour les matières classiques. C'est ce qui l'empêche d'accéder à son premier choix d'université, la prestigieuse Trinity College. Il n'est admis qu'au King's College de l'université de Cambridge.
Là, il se spécialise en études mathématiques. Il découvre la logique et la formalisation. Surtout, il commence à approfondir ses propres recherches dans ce domaine et il finit par être élu étudiant-chercheur du King's College.
Il a réussi à atteindre ce statut grâce à une démonstration inédite de ce qu'on appelle en maths le théorème central limite, qui est toujours très utilisé aujourd'hui, que ce soit pour des démonstrations théoriques ou pratiques. Il permet en fait de dire qu'un phénomène naturel n'est pas dû à une seule cause, mais à plein de petits éléments qui, joints ensemble, entraînent le dit phénomène.
La démonstration de Turing est assez importante, même si le théorème avait déjà été démontré d'autres façons. Mais ce qui a surtout passionné Alan Turing dans les années 30, c'est ce qu'on appelle le problème de la décision.
Un problème de décision est possible à résoudre s'il existe un algorithme, une méthode, qui puisse déterminer si un énoncé mathématique est vrai ou faux. En gros, on cherche à savoir s'il existe une procédure mécanique qui soit capable de certifier qu'un énoncé de maths est vrai ou faux.
Turing est convaincu du contraire. Selon lui, il existe certains énoncés dont on ne peut pas savoir s'ils sont vrais ou non. Ils sont appelés indécidables. C'est ce qu'il montre dans un de ses articles de 1936, qui est considéré aujourd'hui comme l'origine de l'informatique. Dans ce texte, il imagine une machine universelle, ce qu'on appelle aujourd'hui une machine de Turing universelle, capable de simuler n'importe quelle autre machine simple. Il suffit de fournir à cette machine universelle, sous forme codée, un programme à exécuter, ainsi que des données, les données qu'elle va manipuler.
L'objectif est ainsi de sortir des données et de les traiter via un algorithme, c'est-à-dire une série d'instructions de traitement. On peut même aller jusqu'à dire qu'avec cet article, Turing a formalisé la notion d'algorithme.
L'invention de Turing, cette fameuse machine universelle, est le fondement de toutes les découvertes en informatique. Les ordinateurs, par exemple, sont dérivés de cette machine universelle. Certains scientifiques vont jusqu'à dire que nous vivons dans un espace Turing, tant les travaux du Britannique ont été importants dans notre conception actuelle de l'informatique.
Et la machine de Turing va bien plus loin qu'une simple calculatrice. Elle permet notamment d'élaborer des programmes ou des automates, tout ça à partir d'une série d'instructions de traitement. Il y a au départ un fonctionnement qui paraît très simple, très intuitif, et à partir de là, on peut élaborer les programmes les plus complexes imaginables.
En fait, ça veut dire qu'on peut réduire toute machine utilisant des algorithmes à une machine de Turing.
Exactement. La machine universelle de Turing est abstraite. Ce n'est pas forcément un objet matériel. Elle est ce que Turing appelle un être calculant, une machine capable d'accomplir les tâches de n'importe quelle autre machine.
Et ce qui va être intéressant, c'est qu'avec cette machine universelle, Turing va pouvoir résoudre le problème de la décision qui se posait dans le monde scientifique depuis la fin des années 20.
Oui, en réalité, ce qu'il va prouver, c'est qu'il n'est pas possible de trouver une procédure mécanique permettant de dire, pour n'importe quel énoncé mathématique, cet énoncé est vrai ou cet énoncé est faux. Concrètement, ça veut dire que Turing a prouvé qu'il y a certains énoncés mathématiques qui sont indécidables, indémontrables. On ne peut pas dire s'ils sont vrais, on ne peut pas dire s'ils sont faux.
Donc Turing a réussi à montrer qu'il avait vu juste depuis le début à propos du problème de la décision. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que sa méthode est neuve et qu'il la réutilisera avec succès.
Effectivement, son approche générale des problèmes, sa tentative de mécaniser la recherche de solutions en faisant appel à des machines, sont des éléments cruciaux du raisonnement qui lui a permis de décrypter la machine allemande Enigma.
C'est le grand fait d'armes de Turing, ce pourquoi il est reconnu aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'élément central du film Imitation Game. Turing est à l'origine du déchiffrement d'une grande partie des messages cryptés émis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Concrètement, quel fut son rôle ? Enigma est une machine très complexe, et surtout sans cesse perfectionnée par les Allemands. Turing est placé à la tête d'une des équipes chargées de casser les codes d'Enigma. Comment s'y prend-il ? Au lieu d'appréhender le problème sous l'angle de la cryptanalyse, c'est-à-dire de l'analyse systématique par les hommes de messages codés, il décide de confier la tâche à des machines.
Pourquoi fabriquez-vous une machine ?
C'est très technique, vous ne comprendriez pas.
Je suggère que vous essayiez de m'expliquer.
Enigma est extrêmement bien conçu et c'est une machine. Le problème, c'est que nous utilisons des personnes pour en venir à bout. Et s'il n'y avait qu'une autre machine qui puisse battre cette machine ?
Il crée ce qu'on a appelé depuis la bombe Turing, une machine électromécanique capable de déduire chaque jour quels sont les réglages corrects possibles utilisés par les réseaux allemands de cryptage. Elle s'appuie notamment sur les mots probables et la fréquence d'apparition. Elle procède par déduction logique, si bien que dès qu'elle arrive à une contradiction, elle peut écarter un réglage pour se concentrer sur le suivant. Les réglages qui ne provoquent pas de contradiction restent, et ils sont alors examinés par les hommes.
En un sens, on pourrait comparer ça à ce que fait une machine qui joue aux échecs avec un humain. Pour chaque coup joué par l'homme, elle analyse les coups possibles qu'elle peut faire. Pour certains coups, elle conclut que c'est contre-productif, l'équivalent de la contradiction dans la bombe de Turing. Et pour les autres, elle examine de plus près quelles sont les suites possibles dans la partie.
Ce procédé marche très bien pour les messages de l'armée de l'air allemande, car les chiffreurs sont assez négligents. Mais quand Turing s'attache à l'énigme navale et aux messages de la marine allemande, c'est une autre affaire.
Oui, et notre ami Alan aura beaucoup plus de mal. Finalement, les messages secrets d'Enigma ne pourront être intégralement déchiffrés que grâce à la combinaison surpuissante de centaines de bombes américaines, de machines électromécaniques, qui, mises ensemble, permettent finalement d'infiltrer les rouages internes de la cryptographie allemande.
Alan Turing a ainsi eu un rôle pionnier dans le décryptage de la machine Enigma. S'il n'est pas à l'origine de la résolution complète de ce problème, il a largement ouvert la voie à la réussite des alliés dans ce domaine.
Mais ce qui est le plus important peut-être dans cette affaire, c'est que la bombe Turing était à même de remplacer le travail de 10 000 personnes chaque jour. C'est avec cette découverte majeure qu'Alan Turing commence à envisager sérieusement un nouveau problème qui se posera à lui, la possibilité de création d'une intelligence artificielle qui soit plus performante que l'homme.
machines peuvent-elles penser ?
Question ambiguë s'il en est. Turing part de cette interrogation, mais très vite il transforme la formulation et il en arrive à se demander « Une machine peut-elle imiter l'homme ?»
Il est en effet beaucoup plus facile de répondre à cette question. D'un côté, on est sûr que l'homme pense, mais de l'autre, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire « penser ». Or, pour pouvoir répondre à la première question, il aurait fallu le savoir.
À partir de la formulation « Une machine peut-elle imiter l'homme ?», Turing élabore ce qu'il appelle le « test de l'imitation », qu'on appelle aussi aujourd'hui le « test de Turing ».
Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser comme un être humain ?
La plupart des gens disent que non.
Vous n'êtes pas la plupart des gens.
Le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide.
Ah oui ?
Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne. Et donc pense différemment. La véritable question, c'est est-ce qu'on doit, sous prétexte que quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas ? Nous admettons tout à fait que les êtres humains soient très différents entre eux. Vous aimez les fraises, je déteste le patin à glace. Vous pleurez devant des films tristes, je suis allergique au pollen. Que nous prouvent ces différences de réaction, ces différentes préférences, si ce n'est que nos cerveaux fonctionnent différemment et que nous pensons différemment ? Et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux faits de cuivre, de câbles, d'acier.
C'est ça, le thème de votre fameux article. C'est quoi le titre ?
Ça s'appelle le jeu de l'imitation.
Ah oui, et c'est de ça que ça parle ?
Vous voulez jouer, inspecteur ?
Comment se déroule le jeu de l'imitation ? Prenez un interrogateur et faites-le dialoguer avec une femme et un homme. L'un et l'autre cherchent à prouver qu'ils sont la femme. Et le but est que l'interrogateur détermine lequel des deux est réellement une femme. Évidemment, ils ne sont pas dans la même pièce. Ils échangent de façon dactylographiée par machine à écrire.
Ensuite, remplacez l'homme par une machine, sans prévenir l'interrogateur. La machine doit imiter l'homme qui imite la femme. Si l'interrogateur est dans l'impossibilité d'affirmer qui est la femme, et s'il n'arrive pas à faire la distinction entre l'homme qui imite la femme et la machine qui imite l'homme qui imite la femme, alors on peut affirmer que la machine est intelligente, qu'elle sait imiter les humains.
Le plus impressionnant dans ce test de Turing, c'est que notre ami Alan fonde les recherches sur l'intelligence artificielle, alors que cette discipline ne sera instituée qu'après sa mort.
À ce jour, le test n'a jamais été concluant. Pourtant, les pistes qu'il ouvre sont passionnantes, et d'autant plus à une époque où on ne cesse de dire que les ordinateurs sont plus forts que l'homme ou que la technologie a surmonté l'humain. Mais surtout, Turing a pris en compte le fait que la pensée humaine ne peut pas être constituée seulement de raisonnements formels et parfaitement logiques.
Exactement, Simon. Turing soutenait que pour que la machine arrive à imiter l'homme, il fallait qu'elle soit capable de faire semblant d'avoir les défauts de l'homme, par exemple faire des erreurs de calcul.
Ainsi, ce que cherche Turing avec le test de l'imitation, c'est ouvrir la voie non pas à des machines aux capacités illimitées et insurmontables, mais à des machines qui soient capables de coller au plus proche de la façon de penser des hommes.
Il cherche en réalité à recréer artificiellement ce que nous avons naturellement.
Oui, et c'est pour ça qu'à notre époque, Turing commence à devenir une véritable référence. Pourquoi ? Parce que son ambition, imaginer une machine qui puisse se faire passer pour l'homme, est quasiment de créer une nouvelle façon de penser analogue à la pensée humaine.
Au fond, la question essentielle qui agite Turing pendant sa vie après la Seconde Guerre mondiale, c'est « L'homme peut-il créer, être à l'origine d'un nouveau genre d'être, les machines, qui aurait exactement les mêmes structures de pensée que les hommes ?»
Question passionnante, et qui aujourd'hui est étudiée notamment par tous ceux qui imaginent l'avènement d'un surhomme, une forme d'être qui dépasserait l'homme, grâce aux nouvelles technologies, aux recherches sur la génétique, aux possibilités de transformer l'humain en agissant directement sur sa constitution biologique.
Et tout ça représente d'une certaine façon les conséquences des intuitions, des découvertes et des prévisions d'Alan Turing.
Les Hommes de l'Ombre, un vendredi sur deux à 14h sur Radio Campus Paris.
À l'approche des années 50, le travail de Turing se diversifie. Il n'étudie plus seulement l'informatique ou les mathématiques, il se passionne désormais pour la biologie. Mais un événement va mettre fin à ses recherches poussées dans tous ces domaines.
Un soir de 1952, Turing se fait cambrioler. Il porte plainte et le voleur est retrouvé. Seulement, ce dernier dénonce Turing pour son homosexualité en donnant le nom d'un de ses anciens amants.
Quelques années auparavant, l'affaire n'aurait pas fait grand bruit. Seulement, la Grande-Bretagne détient des preuves que les Russes font de l'espionnage scientifique dans leur pays. Dès lors, Turing est immédiatement soupçonné, car son orientation sexuelle apparaît comme déviante.
Il est condamné pour indécence et perversité sexuelle après un procès public dans lequel il n'a pas pu faire valoir son statut de héros de guerre, car ses actions étaient couvertes par le secret militaire. On lui donne alors le choix entre l'incarcération ou la castration chimique.
Et il choisit la deuxième option. Après un an de traitement chimique, il est devenu impuissant et ses seins ont poussé. À ces changements corporels s'ajoutent des effets secondaires, et notamment une profonde dépression psychique.
En réalité, Turing a vécu un véritable supplice. Non seulement il est condamné par la société anglaise pour son orientation sexuelle, non seulement il est mis à l'écart de tous les nouveaux projets de recherche dans le domaine scientifique, mais surtout, le traitement qu'il a dû suivre pendant près d'un an l'a profondément changé, au point qu'il ne se reconnaît plus.
En effet, en réalité, on l'a forcé à devenir un autre. On l'a contraint à changer son identité, et la chose est trop difficile pour lui.
Le 8 juin 1954, Alan Turing est retrouvé mort chez lui, une pomme croquée à la main, lui qui adorait le film Blanche-Neige. On estime qu'il a pris une dose trop importante de cyanure, une dose mortelle. Il s'est peut-être suicidé, mais sa mort pourrait aussi être due à son imprudence dans ses expériences chimiques.
On peut dire que l'incertitude sur sa mort, volontaire ou accidentelle, est un nouveau symptôme de l'incertitude sur l'homme Alan Turing, sur qui il était vraiment.
Une chose est certaine, la pensée d'Alan Turing est fondatrice. Certains vont même jusqu'à dire que c'est en référence à la mort d'Alan Turing qu'Apple a choisi la pomme croquée comme logo, même si l'entreprise a toujours démenti.
Ce n'est que récemment que la figure d'Alan Turing a émergé de l'ombre. Ce mathématicien génial est en passe de devenir, à l'époque, des smartphones, des réseaux sociaux et de la recherche d'intelligence artificielle, une figure culturelle majeure.
Les scientifiques n'ont pas tort de penser que nous vivons actuellement dans un espace Turing. Les ordinateurs, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Alan Turing est à l'origine de tous ces éléments si actuels.
Si nous vivons au cœur des prévisions du mathématicien, alors peut-être est-il temps pour nous de découvrir, de redécouvrir sans cesse, la pensée de ce génie du XXe siècle, appelé Alan Mathison Turing.
Les Hommes de l'Ombre, un vendredi sur deux à 14h, sur Radio Campus Paris.